tout de suite le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le blocus aérien au Kurdistan irakien décidé par Bagdad va entrer en vigueur. Washington appelle ce matin les deux parties au calme. On sera en ligne dans un instant avec notre correspondant Omar Waman. Les forces irakiennes lancent par ailleurs l'assaut contre le dernier grand fief de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Abu Bakr al-Baghdadi exhortait hier soir dans un message enregistré ses partisans à tenir bon et à continuer la lutte, analyse d'Éric Biegala. C'est une véritable veillée d'armes en ce moment à Barcelone et à Madrid. Le pouvoir central veut empêcher le déroulement du référendum d'autodétermination. Les dirigeants séparatistes, toujours aussi déterminés à tenir malgré tout cette consultation, correspondance d'Annabelle Grelier et de Marie-Hélène Ballestero. À Moscou, l'opposant Alexei Navalny, qui est en campagne pour défier Poutine à la présidentielle de mars prochain, arrêté à la sortie de son domicile alors qu'il se rendait à un meeting en province, précision de Claude Bruyot. La politique française, Florian Philippot, annonce ce matin que son association Les Patriotes devient une formation politique. Commentaire, analyse de Christine Moncla, l'invité de la séquence interview. Éric Biegala recevra tout à l'heure notre confrère Marc Crépin pour son livre « Métamorphose de la Russie ». Depuis 1953, la mort de Staline, donc 12 grands témoins racontent. C'est un livre publié aux éditions HD dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
On va poursuivre notre réflexion par fragments avec l'écrivain Charles Dantzig qui publie un traité des gestes chez Grasset. On va faire tout ça en gesticulant, bien sûr, et on va s'interroger sur la place du geste aujourd'hui dans nos sociétés, mais aussi dans la littérature, dans l'histoire. Que disent tous ces gestes que tout le monde fait semblant d'ignorer? Il a la réponse, il nous la donnera à partir de 12h55.
Le Kurdistan irakien coupé du monde, bientôt, dans un peu plus de 2 heures, entre en vigueur en effet ce blocus aérien décidé par Bagdad. De son côté, la Turquie déclare ne plus vouloir importer de pétrole de cette région autonome. Washington appelait ce matin les deux parties au calme, au dialogue. Omar Waman, vous êtes sur place. Le blocus va donc entrer en vigueur dans les prochaines heures. Est-ce que ça signifie que plus aucun avion ne pourra plus atterrir ou partir d'Erbil?
Oui, à 18h ce vendredi, tous les vols internationaux depuis ou en direction d'Erbil et de Souleymaniye vont cesser pour une durée indéterminée. Seuls les vols intérieurs sont maintenus et opérés par Iraqi Airways, la compagnie aérienne nationale. Le pouvoir central veut ainsi reprendre le contrôle de ses frontières et des 2 aéroports administrés jusque-là par les autorités kurdes. Bagdad veut instaurer la loi irakienne sur l'ensemble du Kurdistan. Concrètement, cela signifie qu'il exige le remplacement de tout le personnel des douanes, de l'immigration et de la sécurité par des fonctionnaires issus du pouvoir central. L'objectif est d'isoler cette province kurde qui a rejeté en bloc les demandes de Bagdad. Mais ce blocus aérien devrait également affecter la vie de milliers d'expatriés, des personnels consulaires, des ONG et des entreprises internationales. Une décision qui frappe également les nombreux déplacés et réfugiés qui transitaient par ces aéroports d'Erbil et de Souleymaniye. La Turquie, alliée de circonstances de Bagdad, participe également à cette opération de rétorsion. Ankara a informé le pouvoir central irakien qu'elle ne traiterait plus avec les autorités kurdes, notamment sur la question sensible des exportations pétrolières. Chaque jour, le Kurdistan exporte 550 000 barils d'or noir produits via l'oléoduc qui relie Kirkuk au terminal de Ceyhan dans le sud de la Turquie. Si Ankara décidait de le fermer, cela plongerait le Kurdistan irakien dans une situation économique catastrophique, car ce pétrole constitue l'essentiel de ses ressources.
Omar Waman donc à l'aéroport d'Erbil ce matin.
En Syrie et en Irak, Antoine Mercier, les dernières poches de territoire encore contrôlées par l'État islamique sont maintenant menacées. Les forces irakiennes ont lancé ce matin l'assaut pour s'emparer de la ville d'Awija, le dernier grand fief de l'EI, l'État islamique dans le nord de l'Irak.
La ville compte 70 000 habitants, se trouve dans la province pétrolière de Kirkuk, que se dispute d'ailleurs depuis des années le gouvernement central de Bagdad et la région autonome du Kurdistan. En Syrie, l'EI est aussi en grande difficulté dans sa capitale Raqqa face aux forces démocratiques syriennes qui sont soutenues par Washington. Désormais donc acculé dans tous ses fiefs en Irak, en Syrie, l'État islamique voit son califat proclamé il y a 3 ans maintenant s'écrouler face à ses offensives, ses adversaires soutenus par les États-Unis et la Russie, ou la Russie. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors c'est dans ce contexte que le chef djihadiste Abu Bakr al-Baghdadi refait parler de lui, enregistrement sonore diffusé hier soir, dans lequel il exhorte ses partisans à tenir bon et à continuer la lutte. suite.
Oui, cet enregistrement audio diffusé hier soir sur les réseaux utilisés par les djihadistes, c'est d'abord une preuve que le chef du groupe État islamique est bel et bien vivant, du moins au moment de l'enregistrement, et celui-ci semble être assez récent puisque dans sa longue péroraison, 46 minutes quand même, le chef djihadiste se réfère à des événements tels que par exemple le face-à-face américano-nord-coréen des dernières semaines. Abou Bakr al-Baghdadi, que la plupart de ses militants n'ont d'ailleurs jamais vu, il l'appelle le cheikh invisible ou le fantôme, se cache probablement dans la zone de la moyenne vallée de l'Euphrate, à cheval sur la Syrie et l'Irak, l'un des derniers carrés territoriaux encore tenus par l'État islamique, et dans ce discours, il semble prendre la mesure du rétrécissement drastique du territoire de son califat autoproclamé durant les derniers mois. Se référant à la perte de Mossoul et à la quasi-perte de sa seconde capitale, Raqqa, réduite à 90%, il félicite tout de même ses combattants, remarquant que le territoire perdu importe moins que la volonté de se battre partout où c'est encore possible. Et force est de constater que les djihadistes sont encore capables de lancer des attaques meurtrières. Il y en a eu deux hier à Ramadi, en Irak, pourtant reprise aux djihadistes depuis des mois, et dans le désert syrien, sur les arrières de l'armée du régime, et où les combattants du calife auraient réussi à tuer plus de 50 soldats, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Autre terrain de combat pour le calife al-Baghdadi, l'Europe, les États-Unis ou la Russie, qui selon lui, je le cite, « vivent dans la terreur des attentats ». D'ailleurs, dans la conclusion de son speech, le chef de l'État islamique enjoint ses partisans à multiplier les attaques et notamment, je le cite toujours, à prendre pour cible les centres médiatiques des infidèles. Autrement dit, Antoine, nous sommes désormais directement visés.
Éric Biegala, merci.
Midi 36 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine, merci. Veillée d'armes à Barcelone et à Madrid, le pouvoir central semble bien décidé à empêcher le déroulement du référendum d'autodétermination et il multiplie les menaces de sanctions et les perquisitions.
Et oui, de leur côté, les dirigeants séparatistes paraissent tout aussi déterminés à tenir effectivement cette consultation. Ils devraient d'ailleurs détailler aujourd'hui les modalités du scrutin. On va se rendre sur place successivement donc dans les deux capitales. On commence par peut-être par Barcelone, où devrait se trouver pour nous Annabelle Grelier. Est-ce que vous êtes là, Annabelle? Bon, voilà, Annabelle Grelier, on me dit que vous êtes en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Le président de la région affirme qu'il va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il peut vraiment tenir son pari et puis aussi le gagner, c'est-à-dire avoir un résultat positif qui soit suffisamment convaincant?
Oui, alors la revendication aujourd'hui est double, hein, identitaire mais aussi démocratique. Et le plus gros pari, en tout cas Antoine, consiste à glisser un bulletin de vote dans une urne. Les bureaux seront-ils ouverts? Seront-ils accessibles? Personne ne le sait vraiment aujourd'hui et tout le monde parle d'un plan B qui sera dévoilé à la dernière minute. Une chose est sûre, les organisateurs rivalisent de créativité. Il faudra ruser, disent-ils, tout en prenant la résistance pacifique. Par exemple, certains directeurs d'établissements scolaires ont organisé des pique-niques, des kermesses ce dimanche, invitant les parents d'élèves et leurs enfants. L'objectif, évidemment, est d'occuper les locaux pour empêcher la police d'y entrer. Dans les campagnes aussi, des agriculteurs ont proposé de poster leurs tracteurs aux entrées des villages. À Barcelone, des urnes pourraient également être installées dans les rues. En tout cas, les deux plus grosses associations indépendantistes ont appelé leurs bénévoles à se rendre dans les bureaux de vote dès 7h du matin pour occuper les lieux ou créer des cordons de sécurité. Mais la consigne a été donnée à la population de ne pas forcer les barrages et de former sagement des files d'attente sur les trottoirs. Cette campagne, en tout cas plus que mouvementée, arrive à son terme ce soir. Un grand meeting commun de tous les partis politiques catalans et indépendantistes se tiendra sur la place d'Espagne. Dernier test de mobilisation avant le scrutin de dimanche.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. Donc de la place d'Espagne jusqu'à la capitale espagnole, on va maintenant à Madrid où on retrouve Marilène Ballestero. Bonjour.
Bonjour.
Jusqu'où le gouvernement central est prêt à aller maintenant pour tenter d'empêcher ce scrutin?
Eh bien, le gouvernement central entend tout faire pour empêcher ce vote. Hier encore, la garde civile a saisi 2,5 millions de bulletins de vote, 4 millions d'enveloppes et une centaine d'urnes qui se trouvaient dans un entrepôt à Igualada, près de Barcelone. La semaine dernière, 10 millions de bulletins de vote avaient été saisis. La justice espagnole poursuit également son travail. Le parquet de Catalogne a ordonné à la police régionale la mise sous scellé des bureaux de vote potentiels afin d'éviter qu'on y organise le référendum. La police devra aussi procéder à la surveillance de ces établissements sur un rayon de 100 mètres à la ronde pour empêcher le vote dimanche. Alors ce sont des mesures qui se multiplient. En ce moment d'ailleurs, le chef du gouvernement central, Rajoy, s'entretient avec tous ses ministres à Madrid, au palais de la Moncloa. Il est bien sûr question du référendum en Catalogne, qui est au centre des discussions aujourd'hui, et notamment la question de la sécurité, car la police régionale catalane, los Mossos d'Esquadra, pourrait bien désobéir aux ordres dimanche prochain et ne pas empêcher le vote, comme lui a demandé le gouvernement central et le ministère de l'Intérieur.
Réunion donc du gouvernement en ce moment, vous le disiez. Mais finalement, quel est l'enjeu tel qu'on le perçoit à Madrid de cette crise avec la Catalogne ?
Eh bien, à Madrid, il y a beaucoup de sentiments partagés. Il y a ceux qui soutiennent dur comme fer la position du gouvernement central, à savoir que ce vote est totalement illégal, car il a été interdit par le tribunal constitutionnel et il est contraire à la constitution espagnole. Il y a aussi, eh bien, ceux qui, au contraire, appuient les indépendantistes catalans et leur droit à décider de leur avenir, mais ils sont minoritaires. Et puis ceux qui prônent la voie du dialogue, de la négociation entre le gouvernement central et l'exécutif catalan pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et de façon générale, on peut dire aussi qu'à Madrid, les gens sont vraiment fatigués, ils en ont ras-le-bol du problème catalan, car on ne parle que de ça depuis des mois, voire des années ici. On voit cela également avec de l'amertume, car c'est vrai que ni le gouvernement central de Rajoy, ni l'exécutif catalan n'ont fait d'efforts. Rajoy, depuis des années, a nié ou sous-estimé le problème. Et ce manque de dialogue et d'écoute des deux côtés n'a fait qu'envenimer la situation. Et puis à Madrid, il y a aussi un sentiment d'inquiétude, car on ne sait pas ce qui va se passer en Catalogne dans les prochains jours. Depuis des années, les médias espagnols parlent du possible choc entre deux trains, c'est-à-dire entre l'autorité catalane et le gouvernement central. Et malheureusement, les deux trains sont en train de se rapprocher à très grande vitesse.
Marie-Hélène Ballestero, merci beaucoup. En direct de Madrid, à l'instant, on apprend que les séparatistes déclarent disposer de plus de 2000 bureaux de vote. Dernière déclaration sur cette guérilla pour organiser ce vote. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Charles Danzig. Bonjour.
Bonjour.
Écrivain, auteur de ce traité des gestes dont on va parler. Il y a un geste pour manifester sa volonté d'indépendance
Lever le poing, faire le geste des ciseaux, comme ça, quand on veut se séparer. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous disiez, c'est que on a toujours l'impression, ou souvent l'impression, que les séparatismes sont des séparatismes de gens opprimés et faibles. Et vous avez cité deux régions où il s'agit d'un séparatisme de riches. La Catalogne est très riche et le Kurdistan, vous avez mentionné des centaines de milliers de barils de pétrole. Donc le séparatisme peut être un égoïsme, pour parodier Sartre.
Merci beaucoup Charles Danzig pour cette observation. On vous retrouve donc dans la dernière partie de la Grande Table. On passe à Moscou maintenant, où l'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté ce matin à la sortie de son domicile alors qu'il se rendait à un meeting en province. Nous sommes à moins de 6 mois d'un scrutin pour lequel le président ne s'est d'ailleurs pas, président Poutine ne s'est pas encore officiellement déclaré, mais Navalny lui mène dans toute la Russie une campagne malgré les entraves qui sont posées par les autorités. Une série de rencontres donc avec les électeurs. Nous saluons l'invité de la séquence interview. Marc Crépin, bonjour.
Bonjour.
Votre confrère qui publie donc un livre sur la Russie, Métamorphose de la Russie depuis 1953. Sur cette question de Navalny, que représente-t-il finalement et en quoi représente-t-il un tel danger pour le pouvoir en place que finalement Poutine soit obligé de l'arrêter comme ça et de prêter le flanc à la critique sur, l'aspect démocratique du scrutin.
Bon, ça fait 8 ans qu'il est la cible du pouvoir du Kremlin, notamment, depuis 2009, en fait, parce qu'à l'époque, il avait été conseiller d'un gouverneur à Kirov. Et ce qui a permis au Kremlin, parallèlement à la surveillance de son site, de son blog anticorruption, de le coincer, disons, pour lui mettre sur le dos une accusation de malversation, qu'il a fait condamner à 5 ans de prison à l'époque, et puis qui ont été transformés en 5 ans avec sursis, ce qui a permis de se présenter au municipal de 2013, et il a fait 30% des voix à Moscou.
À Moscou, c'est ça la question.
Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que maintenant il fait peur au Kremlin. Il a commencé récemment, début septembre, une tournée, puisqu'il est candidat à la présidentielle de l'année prochaine, une tournée électorale. Tous ces meetings font le plein, il y a plusieurs milliers de personnes à chaque fois. Et manifestement, il inquiète le Kremlin.
Marc Crépin, merci, on vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview.
Midi 45 sur France Culture. Les syndicats de routiers se déclarent effarés après une réunion hier soir avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et les fédérations patronales. Les discussions auraient été très tendues, notamment sur l'application de la réforme du travail par ordonnance.
Et oui, c'est la CGT qui parle des syndicats effarés. Les syndicats n'ont rien obtenu de concret. Et pire, on a appris avec stupeur que les ordonnances venaient impacter les frais de route, ce qui représente, selon la CGT, un coup de tonnerre pour la profession. Il est quand même assez rare, Anne Lorchouin, bonjour. bonjour.
Bonjour.
Qu'une réunion de conciliation destinée à apaiser les mécontentements dans un conflit social se termine plus mal, beaucoup plus mal qu'elle n'avait commencé.
Alors il s'est passé en fait que les discussions ont abordé les détails et que preuve est faite une fois de plus que le diable s'y cache, en l'occurrence ce qu'on appelle les frais de route. Des frais qui peuvent représenter, selon les syndicats, de 600 à 1000 euros par mois supplémentaires sur la fiche de paye de certains chauffeurs, notamment ceux qui partent pour plusieurs jours. Ces frais de route sont le plus souvent des indemnités de repas ou de découcher. Or, ils font partie du volet prime qui pourra désormais être négocié en interne à l'entreprise et non plus au niveau de la branche. On en profite pour rappeler que la très grosse majorité des entreprises de transport en France sont des PME de moins de 20 salariés et que si accord il doit y avoir en interne à l'entreprise, donc sur ce genre de sujet, il ne sera pas mené par un représentant syndical puisque dans ces petites entreprises, en général, il n'y en a pas. Alors, les organisations patronales du secteur routier font valoir que leurs salariés, même éloignés du monde syndical, même non formés, seront aussi capables que les autres de négocier leurs avantages, ce dont les syndicats doutent fortement, évidemment. Muriel Pénicaud, qui promettait en début de semaine dernière que rien dans la loi n'allait impacter particulièrement les routiers, se voit en tout cas contredite. Cette réunion entre employeurs, syndicats et la ministre montre que ce qu'on appelle les annexes de rémunération, c'est-à-dire tout ce qui vient s'ajouter au salaire de base, eh bien tout cela est susceptible d'être modifié par les ordonnances. Les syndicats de routiers en attendant sont furieux. Une prochaine réunion aura lieu le 4 octobre prochain. En attendant, Elisabeth Borne promet que le sujet va être expertisé. Les syndicats, eux, appellent donc à la grève dès le 10 octobre et réfléchissent en attendant à élargir et à accentuer le mouvement.
Anne-Laure Chouin, merci. Cette information maintenant révélée par le Figaro ce matin, le gouvernement est en train d'adapter sa stratégie pour le maintien de l'ordre et en particulier dans la prise en compte des violences dans les rassemblements, dans les manifestations et spécialement dans celles où s'infiltrent des casseurs ou, selon le terme du ministère de l'Intérieur, des professionnels de l'émeute. Le Figaro reproduit donc, Camille Magnard, cette note du ministère qui explique en partie cette nouvelle stratégie.
Oui, une nouvelle stratégie, Antoine, qui semble mue par cette volonté non dite, celle d'en finir avec le fameux slogan « Tout le monde déteste la police » qu'on a beaucoup entendu dans les manifestations l'an dernier et bien au-delà des rangs des plus radicaux. Pendant cette mobilisation, la présence très visible des CRS au contact avec les autonomes des têtes de cortège, mais aussi leur technique de faire des nasses, d'encercler les manifestants dans un large secteur sans possibilité de sortie, avait été largement décriée, accusée de provoquer des débordements. Le ministère reconnaît aujourd'hui que cela crée en effet des incompréhensions chez les manifestants de bonne foi qui se retrouvaient nassés sans pouvoir échapper aux gaz lacrymogènes et aux interpellations massives. Il en avait résulté un rejet de la violence légitime, celle des forces de l'ordre. Alors à présent, il s'agit de miser sur la pédagogie, d'être plus clair sur les mouvements policiers en cours, en lançant des messages de sommation non plus par haut-parleurs, mais par des grands panneaux lumineux ou encore par des informations livrées en temps réel sur les réseaux sociaux des préfectures. Ménager aussi des échappatoires pour les manifestants pris dans les affrontements. Et plus globalement, on sent une volonté de se tenir à distance des fauteurs de troubles en développant des méthodes moins violentes que les grenades soufflantes ou les lacrymogènes pour éloigner les manifestants. On évoque des lumières stroboscopiques aveuglantes comme ça se fait aux États-Unis ou des canons à son de fréquence répulsive comme c'est le cas déjà en Israël. Alors en France, les techniques policières sont-elles déjà en train de changer? En tout cas dans les récentes manifestations de la rentrée sociale, on a pu constater une présence des CRS plus discrète, moins au contact avec les têtes de cortège. Le résultat a été immédiat avec beaucoup moins d'affrontements à l'arrivée.
Camille Magnard, merci beaucoup. La politique française maintenant, avec cette annonce de Florian Philippot après sa rupture avec le Front National. Monsieur Philippot lance son propre parti, donc baptisé Les Patriotes. C'était le nom de son association qu'il animait au sein du FN et qui lui a valu en partie d'être mise à l'écart. On met la France avant tout, on n'est pas sectaire, donc les Patriotes pourront également adhérer à un parti politique, à un syndicat. Ça ne pose aucun problème, c'est ce qu'il expliquait ce matin chez l'ancien président donc, du Front National, Christine Moncla. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que cette annonce donc de la création d'un nouveau parti, d'un nouveau mouvement dans ce secteur de l'opinion modifie le paysage à droite, à la droite de la droite?
Alors Florian Philippot tente, on l'a remarqué, de se démarquer justement de la droite, de l'extrême droite. Il se présente toujours comme ni gauche ni droite, social, souverainiste, estampillé humaniste, notamment sur les questions migratoires. Et ça c'est nouveau chez lui, car tant qu'il portait la parole officielle du FN, il n'avait jamais jugé que le discours frontiste sur l'immigration, qui lui n'a pas changé, était anxieux. Diogène. Mais donc cette ligne politique, hein, le philippotisme, est encore floue, sachant que ce que les électeurs de Marine Le Pen aimaient chez lui, ce n'était pas tant ses idées sur l'euro par exemple, que le rôle de dédiabolisateur qu'il jouait avec lui, le Front National, est devenu fréquentable. Mais aujourd'hui, qui va avoir envie de fréquenter Florian Philippot? Quelle serait sa valeur ajoutée? On sait que les Républicains ont émis un veto à toute alliance, ce qui n'empêche pas les discussions individuelles. On entend souvent parler de Nicolas Dupont-Aignan, souverainiste comme lui, isolé aussi, mais c'est oublier les discours très radicaux de Dupont-Aignan sur l'immigration. Alors pour essayer de répondre à votre question, Antoine, la naissance du parti Les Patriotes, dans l'immédiat, sans élection prochaine, elle ne va pas bouleverser le paysage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle complique rudement la tâche de Marine Le Pen, car aujourd'hui, une bonne partie de l'appareil frontiste souhaite un retour aux fondamentaux de Jean-Marie Le Pen, qui vient d'écrire en ce sens aux militants, aux ex-maigrettistes qui occupent des postes de plus en plus importants au sein du FN. Mais Marine Le Pen, elle doit aussi conserver ses électeurs que lui avait apporté Florian Philippot. Et sans lui à ses côtés pour absorber les coups, elle se retrouve un peu seule à faire le grand écart au milieu du parti qui lui-même se retrouve au milieu du guet.
Merci Christine Monclat. L'invité de la séquence interview, donc, notre confrère Marc Crépin pour son livre « Métamorphose de la Russie depuis 1953 », un livre d'entretien avec une douzaine de personnalités russes, publié aux ateliers Henri Dougier. Marc Crépin, vous dites dans votre prologue que la Russie est un fantasme. Un fantasme pour qui et comment il se manifeste, ce fantasme, aux yeux des Occidentaux, j'imagine?
Ce qui est anecdotique, c'est que j'ai retrouvé cette même expression chez d'autres auteurs bien plus compétents que moi, notamment M. Radvani. Mais peu importe, c'est un véritable fantasme dans la mesure où la Russie est toujours l'objet de caricatures. Elle est l'objet de caricatures de la part de tous les Français, que ce soit ceux qui la soutiennent, qui soutiennent son régime actuel ou qui le critiquent vertement. On s'est aperçu, l'éditeur, donc Henri Dougier, qui m'a demandé de faire cet ouvrage, et moi-même, on s'est aperçu que très souvent, on avait une perception assez faussée et simplifiée, caricaturale, donc fantasmatique.
Et ça, vous avez pu le constater en tant que correspondant plusieurs années à Moscou. Alors oui. Les deux visions, vous les avez eues successivement, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Et mon souci était de ne pas faire le travail des historiens et bien sûr des experts, mais de faire parler les témoins, d'en revenir aux faits et de laisser le lecteur juge.
Et Éric Bégala?
Alors, vous balayez assez large, hein, de 53 à la période contemporaine, une soixantaine d'années, une douzaine de grands témoins, on va dire. Alors, on part de la mort de Staline, puis alors on passe par Tchernobyl. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes. Est-ce qu'il y a un épisode qui est plus marquant que les autres pour les Russes, pour ces témoins, pour les gens de Russie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort sur cette période de génération, en gros, que vous balayez avec ces témoins?
Oui, facilement deux générations. Oui, pour les Russes, très certainement, on va dire, on ressent les choses différemment selon qu'on est intellectuel, engagé politique ou qu'on appartient à l'opinion publique indifférente à la politique. Mais c'est évidemment la chute de l'effondrement de l'Union soviétique. Et les deux coups d'État, le coup d'État de 91 d'abord et celui de 93 qui ont suivi. Celui de 93 était plus constitutionnel, mais enfin, il se réduisait à une lutte des conservateurs très durs contre les progressistes, évidemment.
Actuellement, le régime russe, c'est quoi? Une démocratie, une sorte de démocratie, une dictature, une démocrature, on ne sait pas très bien.
Non, c'est une...
Qu'est-ce qu'en disent vos témoins? Comment ils le sentent?
Pour le moment, la Russie est une démocratie. C'est indéniable. Ça n'est pas une dictature. Mais c'est une démocratie qui est dirigée par des clans extrêmement autoritaires qui concentrent tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, la Douma est totalement contrôlée par le Kremlin. Les trois partis d'opposition, soi-disant d'opposition, sont des figurants. Le pouvoir exécutif, ça va de soi, y compris l'armée et tout ce qui va avec. Le pouvoir judiciaire, la justice n'est absolument pas indépendante en Russie. On vient de le voir encore ce matin avec Navalny. Et puis, évidemment, le pouvoir économique. Et ça, c'est très très important. On connaît les aventures de toutes les grandes entreprises russes qui sont absolument contrôlés par le Kremlin et qui lui permettent de mener la politique qu'il mène aujourd'hui.
À cet égard, Rosneft, hein, qui est la principale entreprise d'hydrocarbures en Russie, tenait son conseil d'administration hier. C'était l'occasion d'y intégrer Gerhard Schröder. C'est un monstre. C'est un monstre non seulement économique, mais également diplomatique, qui intervient partout, jusqu'au Kurdistan, d'ailleurs, où il est devenu, ces dernières semaines, le principal investisseur.
Très exactement, oui. Rosneft est comme Gazprom, hein, c'est la même chose. Ce sont des entreprises gigantesques qui, par leurs moyens et aussi par les liens qu'elles tissent sur le plan économique et industriel dans le monde entier, sont au service, encore une fois, d'une seule politique, celle du Kremlin.
Merci beaucoup, Marc Lapin, d'avoir accepté notre invitation. Métamorphose de la Russie depuis 53, 12 témoins racontent donc, c'est aux éditions Atelier Henri Dougier. Charles Dansig, vous vouliez prendre votre voiture ce dimanche, non, à Paris?
C'est interdit, non, je crois.
Voilà, c'est un fait inédit, hein. C'est un fait inédit, parce que l'ensemble de Paris va être interdit à la circulation des voitures et des deux roues motorisées. L'ensemble des territoires est interdit, c'est ce qu'affirme la mairie de Paris, entre 11h et 18h, et ça comprend donc tout Paris intramuros, encore une fois.
Et pourquoi?
Voilà, pourquoi, je ne sais pas, d'accord. Parce que c'est la journée sans voiture, qu'il faut s'habituer à ça, vous avez...
Ah bah écoutez,
il y a des commentaires à faire.
Vous savez qu'il y a une chose très instructive avec les gestes des clés de voiture. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes. Si vous me donnez deux secondes, il est très frappant de voir comment les hommes, quand ils ferment leur voiture, ont un geste très mal avec le comme ça, obéis-moi objet. Alors que très souvent, les femmes ferment leur voiture, claquent la porte, font un petit geste en arrière pour fermer avec la clé et s'en vont. Il y a un rapport à l'objet et à la domination de l'objet qui est très différent entre l'homme et la femme pour la voiture.
On est déjà dans votre livre et dans la dernière partie. La grande table, juste un petit mot du temps. Pluvieux sur le nord et en particulier le nord-ouest, variable partout ailleurs. 17 à 29 degrés cet après-midi, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Anne Fauquemberg.